Le titre, ce message, quelle est notre feuille de route? Quelle est notre feuille de route? Alors, ce qui m'a interpellé, c'est que dans le lieu où je travaille, j'ai un nouveau directeur. Un nouveau directeur, bon, j'avais le même depuis 20 ans. Hein, vous savez, avoir le même directeur pendant 20 ans, voilà, c'est pas mal, hein, c'est vrai. C'est... Oui, bien sûr, oui. Oui, d'accord. Voilà. Donc, changement. Les piles fusionnent avec un autre établissement, nouveau directeur, nouvelle directrice adjointe. Et alors, ce qui m'a frappé dans les premiers discours du directeur, ce qui m'a frappé dans les discours de ce directeur, c'est le souci de donner à chacun, à ses collaborateurs, une feuille de route. Et le souci que l'ensemble du personnel, non enseignant, enseignant, soit au courant de cette feuille de route. Et j'ai entendu une petite voix derrière moi, le Saint-Esprit, qui m'a dit « Jean-Luc, c'est bon ça. C'est pas du monde ça. C'est vraiment ce que je veux. » Alors j'ai dit « Bon, ok Seigneur, je retiens. » Alors je vais me dire « C'est quoi une feuille de route ?» Hein, certains m'ont déjà posé la question. Alors j'ai pris sur internet description des expressions. J'ai regardé. Alors voici ce qui est écrit, puis après je vais aller un peu plus loin. Une feuille de route est en langage militaire un ordre de rejoindre, assorti d'un itinéraire. Un nouveau sens de l'expression est né dans le domaine diplomatique lorsqu'elle a été utilisée au figuré par métaphore pour désigner un plan élaboré en 2003 par le quartet États-Unis, ONU, Russie, Union européenne pour le règlement du conflit israélo-palestinien. La feuille de route pour la paix. Donc cette expression a été utilisée pour élaborer un plan de paix. D'accord ? Et c'est alors que l'expression anglaise « roadmap » a été littéralement traduite en « feuille de route ». Depuis lors, l'expression est couramment employée dans divers domaines pour désigner les grandes lignes et surtout les étapes d'une politique, d'une stratégie, d'un plan d'action. D'accord ? On peut dire que la feuille de route, en quelque sorte, nous indique où nous devons aller et par quelles étapes nous devons passer. D'accord ? Ça va ? Finalement, c'est simple. C'est simple. Alors, il y a la notion de plan et d'instruction. Nous ne devons pas naviguer à vue, au hasard. Vous êtes d'accord ? Quelquefois, des petites instructions ont leur importance. Il faut les mettre en évidence. La petite instruction, attention, chasse d'eau, le clapet qui soit relevé, on le paye cher. Si, voyez, on a fait une annonce par rapport à ça, on va avoir une facture colossale. Ouais. Bon, ça, c'est pas ça. Hein. Oui, bon, t'as entendu un peu quand même. Ouais. Voilà. Alors, essayons de mettre un enracinement biblique à cette notion de feuille de route. En d'autres mots, le Seigneur nous adresse-t-il une feuille de route? Je dirais une feuille de route collective. Je crois qu'il y a une feuille de route individuelle, mais il y a aussi une feuille de route collective. J'y reviendrai en conclusion. Si on regarde dans l'Ancien Testament, la feuille de route la plus simple, les Israélites dans le désert. Ils doivent suivre une colonne de nuée le jour pour se diriger, et une colonne de feu la nuit. Et quand la colonne s'arrête, ils doivent s'arrêter, établir le campement. Et quand la colonne se met en route, ils doivent décamper, si on peut dire, et repartir. Ça, c'est vraiment la feuille de route la plus simple. Remarque, en passant, le chemin à prendre n'est pas forcément le plus direct ou le plus logique. Les Israélites ont dû faire un grand détour. Diverses raisons. Ça peut être notre incrédulité, ça peut être notre manque de vigilance, notre désobéissance, notre manque de préparation, enfin voilà. Je me souviens d'ailleurs d'une parole prophétique, c'était marrant, c'était la première conférence CP où vous êtes allé l'année dernière, c'était la première en 2001 où j'y suis allé seul avec Véronique. Et il y avait André Wilkinson qui a un ministère prophétique, qui était à Lens à l'époque, donc ça fait déjà 8 ans. Et je me souviens qu'il avait une parole pour notre église qui nous voyait en train de retracer des sillons déjà tracés. En train de revenir sur des sillons. C'est curieux quand même. Ça fait penser un peu aux Israélites qui font tout un détour. Bon, en passant. Oui, la feuille de route a vraiment une notion biblique. Ce qui n'est pas biblique, c'est quand, dans la feuille de route, certains vont dire la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que le chemin, comment tu y arrives, qu'importe du moment que tu y arrives. Non, ça c'est pas biblique. Le chemin est aussi important que le but à atteindre. D'accord? La façon dont je marche est très importante. Et la fin qui justifie les moyens, ça c'est pas de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire encore dans l'Ancien Testament? Ésaïe 30, 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y. » Jérémie, chapitre 6, verset 16. « Placez-vous sur les chemins, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouvez le repos de vos âmes. » Mais les Israélites ont répondu « Nous n'y marcherons pas. » Jérémie 18, 15. Cependant, mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens à des idoles, il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. C'est tout notre défi en tant qu'Église, c'est de prendre les chemins qui ont déjà été frayés par le Seigneur, qu'il nous prépare, et de ne pas emprunter des chemins non frayés. Bon, ça c'est dans l'Ancien Testament. On voit la notion de feuille de route dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament aussi. Et on peut même dire que chaque évangile se termine par une feuille de route. Vous prenez Matthieu, l'évangile de Matthieu. Vous regardez la fin de l'évangile. Faites disciples toutes les nations, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Évangile de Marc. Allez par le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Feuille de route. Luc, il rappelle même que le Christ avait sa feuille de route. Luc rappelle que le Christ, il fallait qu'il souffre, il fallait qu'il meure, et après qu'il meure, que la repentance et la rémission des péchés allaient être prêchés. Et Luc nous rappelle aussi une instruction très précise dans la feuille de route. Il y a des choses très loin, puis il y a des choses tout près. Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors l'évangile de Jean, qui est l'intime de Jésus, alors là il n'y a pas grand chose. Vous savez quelle est la feuille de route que Jésus adresse à Jean? Si vous regardez la fin de l'évangile, 3 mots. Toi, suis-moi. Et puis Jean, il était curieux parce que il a entendu Jésus dire à Pierre qu'il allait mourir en martyr en quelque sorte. Et puis Jean dit, et moi, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Que t'importe, dit Jésus, toi, suis-moi. Ça montre que dans la feuille de route, il y a aussi une part d'inconnu. Tout n'est pas dit. D'accord? Tout n'est pas dit dans la feuille de route. Toi, suis-moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire dans le Nouveau Testament? Jean 10, mes brebis entendront ma voix, elles ne suivront pas un étranger, mais elles me suivront. On voit aussi une feuille de route dans Acte 1. Vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, c'est formidable parce que le premier jour où j'ai commencé à méditer ce message, donc c'était avant dimanche dernier, c'était un mercredi. La parole du jour dans Pensées précieuses, c'était psaume 5, verset 9. C'était directement sur le sujet. Éternel, dresse ta voix devant moi. Est-ce que c'est une prière que vous faites, hein? Est-ce que c'est une prière qu'on fait? Seigneur, montre, dresse devant moi ta voix. Le chemin frayé. Hein? Alors, maintenant je développe. Ça, c'était l'introduction. Hein? Si on est convaincu que le Seigneur nous donne une feuille de route, comment on va la recevoir? Qu'est-ce qui nous aide à recevoir cette feuille et à avancer avec? Une référence constante. Alors on va allumer le projecteur là, parce que j'ai deux transparents. Ouais, j'en ai deux. Voilà. On existe en tant qu'église depuis quelques années. En quelques années, le Seigneur en quelques années, le Seigneur nous a parlé et nous a conduits à élaborer une certaine vision. Au début, on avait fait une vision de 4-5 pages, mais on s'est rendu compte que c'était trop, et on l'a résumé, cette vision. On pourrait dire que c'est la vision générale de l'Église. Et c'est pas le seul élément auquel on va se référer. Je vais voir après. Hein. Voilà, donc ça, vous le connaissez, ça. Comme on doit rappeler souvent la chasse d'eau, attention au clapet, etc., on devrait rappeler souvent ça. Et pardon si on ne l'a pas fait assez souvent. Parce que constamment, nous devons référer nos vies à ça. Ce qui est au centre de cette vision, c'est le mot cœur. Vous avez remarqué ? Cœur. Cœur, cœur, cœur. C'est au centre de la vision. Et c'était au centre d'une parole d'envoi quand j'étais avec Mark Bolton, avec les anciens de l'eau vive à Lille. Et ça aussi, j'aime souvent le rappeler. Hein. Il y avait Jean-Louis Ranft, le père de Myriam, en présence de Philippe Butel, qui était pasteur à l'époque, Théo Perse, et il avait cette parole. Je te ferai la grâce de construire selon moi, selon mon cœur, dans une largeur de cœur qui m'honore. Avancez simplement et je vous donnerai les matériaux les uns après les autres. Donc ce qui est au centre de la vision et donc ce qui est au centre de notre feuille de route, d'accord ? Parce que c'est le premier point de référence. Quelle est la vision générale de l'Église ? Le cœur. Et on avait résumé en trois axes, être une communauté qui cherche à être plus près du cœur de Dieu. Deux, une communauté qui cherche à être un seul cœur. Trois, une communauté qui soit le cœur de Dieu dans la cité. Et on s'est aperçu, quand on avait fait les 40 jours pour l'essentiel, vous vous souvenez ça, hein, qui tourne autour de 5 buts bibliques. Eh bien, on s'est aperçu que ces 5 buts bibliques sont intégrés, enfin sont contenus dans ces trois axes. L'adoration, qui consiste à développer un style de vie qui plaise à Dieu, et la maturité, un caractère à l'assemblance de Jésus-Christ, c'est le premier axe, d'accord ? Être plus près du cœur de Dieu. La communion fraternelle, l'esprit de corps ou de famille, et le service, mettre ses dons au service de la communauté, c'est le deuxième. D'accord ? Une communauté qui cherche à être un seul cœur. Et la mission ou l'évangélisation, partager mieux l'évangélisation, c'est le troisième. Donc les 5 buts bibliques font partie de ces trois actes. Alors constamment, on devrait se dire, est-ce que je suis en train, je suis bien aligné avec ça, constamment, en tant qu'église et individuellement. Si la prière fait plus partie de ma vie, je suis en train de m'éloigner de l'objectif, évidemment. Si je suis pas en train de témoigner sans faire pour autant mille choses, hein, attention, je suis en train de m'éloigner de l'objectif aussi. Si dans ma communauté, il y a sans arrêt des querelles et des machins, bon, peut-être je suis loin du deuxième objectif aussi. Hein, d'accord ? Bon, donc ça, c'est le premier point de référence. La vision générale de l'Église. Constamment devrait s'y référer, constamment devrait le rappeler. J'ai même l'intention de mettre une grande affiche là, qui rappelle ça. Hein ? Vous êtes d'accord avec ça ou ça vous semble logique ? Oui ? Oui ? Bon. Ce qu'il y a, on a besoin aussi d'avoir quelque chose de plus précis. On a besoin d'avoir une vision plus précise, parce que chaque église a un appel spécifique aussi, a une identité, a une couleur. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est Anne Griffith qui a souligné ce point-là. On a une identité, on a une couleur, on a un appel spécifique. Alors c'est la deuxième chose que j'aimerais faire maintenant pour nous aider à comprendre quelle est notre feuille de route. Alors bien sûr, je suis pas complet, c'est mon travail en tant que berger d'y réfléchir. Mais en même temps, j'ai pas le tout moi, c'est ensemble qu'on l'a construit aussi. D'ailleurs, lors de la retraite église, le samedi particulièrement, on prendra du temps pour compléter ça, pour partager, réfléchir à notre feuille de route pour cette année. D'accord ? Moi, j'ai pas le tout, hein. Je dois quand même pouvoir dire des choses, parce que si je peux rien dire, c'est un peu malheureux pour un berger quand même, mais j'ai pas le tout. Et le tout, c'est souvent à travers plusieurs éléments. Alors, je me concentre là, ce matin, sur les deux prophètes qui sont venus nous parler. Vraiment avant l'été. Et pourquoi on peut se concentrer là-dessus ? Ça veut dire que c'est peut-être réducteur, mais quand même, ces deux personnes qui sont Étienne Van Hout, qui est venu nous parler en juin, et Anne Griffith aussi, tous les deux sont venus nous parler en juin. Je les place tous les deux comme des prophètes, même si Étienne Van Hout, c'est peut-être moins évident de dire, je crois que c'est un prophète. Différent dans son ministère d'Anne Griffith. Et pourquoi on peut se concentrer sur ces deux ? Parce que je sais que ces deux personnes se sont beaucoup investies dans la prière pour pouvoir nous apporter quelque chose qui est vraiment pour nous. C'était la préoccupation constante d'Anne Griffith. Je suis sûr qu'elle était dans notre chambre chez nous en train de prier sans arrêt. Il faut que je trouve quel est votre appel spécifique. Étienne Van Hout, je sais qu'il a beaucoup prié avant de venir ici. Il n'a pas voulu prendre un message qu'il avait déjà, ce que je fais moi parfois, que quand je vais prêcher ailleurs, quelquefois je prends un message. Je vous le dis honnêtement, pas toujours, mais souvent. Lui, non. Quand il est venu chez nous, il a voulu vraiment dire, moi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à l'église de Wavrin ? D'accord ? Donc je crois qu'on peut se concentrer sur... Parce que je crois aussi, je suis convaincu que ce sont les prophètes qui nous aident à comprendre, à discerner la feuille de route. En partie, les prophètes ont un rôle important, du moins. C'est pas le tout non plus, mais ils ont un rôle important. C'est pour ça que Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes. Alors c'est le deuxième transparent. C'est quelques mots clés qui apparaissent dans ce que nous ont partagé ces deux prophètes. Ça va jusque-là ? Quelques mots-clés. Mots-clés que nous a apporté Étienne Van Hout, c'est pardon et réconciliation. Souvenez-vous, vous pouvez réécouter le message, il a dit, c'était un commentaire sur Jésus dans la barque au milieu de la tempête. Enfin, les disciples étaient là paniqués et Jésus est monté dans la barque, il a calmé la tempête, etc. Et ils sont allés à l'autre rive. Étienne nous a posé la question, il dit, à votre avis, si vous étiez seul au monde, enfin, qu'est-ce qui est plus important à emmener dans votre barque ? Qui n'est pas forcément matériel, d'accord, c'est pas... D'ailleurs, il voulait plutôt dire de spirituel. Qu'est-ce qui est à emmener ? Et il a dit, la chose essentielle que vous avez emmenée, vous avez en tant qu'enfant de Dieu un dépôt de pardon et de réconciliation. Vous avez connu la réconciliation avec le Père en dépôt. Vous êtes ministre de la réconciliation. D'accord ? Oui. 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 Donc, ça, je crois que c'était une parole forte. Parole forte qui a été partagée. Et alors, Anne Griffy, elle, il y a plusieurs mots. Elle est venue après. Il y a plusieurs mots. Et ce qui revenait, bon, je crois qu'on avait, j'avais un moment distribué toute la parole intégrale. On va le remettre sur la table. Je vais redonner. Moi, j'ai tapé à la machine presque la parole intégrale. Il y a quelques mots qui manquent, mais je tapais ça et je vais la remettre sur la table. Et qu'est-ce qui ressortait pour nous, Wavrin? Essentiellement, tiens, une affiche qui se casse la figure, mais c'est pas grave. Nous sommes d'abord appelés à être serviteurs, des serviteurs et des servantes, marqués par la compassion. D'accord ? Ça, c'était très fort. Il dit, c'est votre point de départ. Elle a même dit, vous êtes apostolique dans ce sens. Ça veut dire qu'on a, peut-être, on est à être appelé à être exemple et modèle pour la région. Serviteur, servante, eh oui. C'est fort. Hein. Et il y avait ensuite un appel de guérison. Un appel de guérison, c'était dans la parole aussi. Appel de guérison, même physique. Accueil de gens blessés, vous allez avoir les clés pour les cœurs. Il y avait ensuite, vous êtes appelé à servir la table collective de la région. Ça, mon cœur a fait boum boum quand j'ai entendu ça, parce que c'est quelque chose que je venais de partager en réunion de responsables quelques mois avant. Et quelque chose que je ressens et que je me demandais, est-ce que c'est pour Annette et moi? Mais non, je crois que c'est pour l'Église aussi. On va voir ce que c'est après. Pour chaque chose, on va rentrer un peu plus dans les détails. Mais c'est une conviction qui m'a animé. Le reste aussi, hein. Serviteur animé par la compassion, conviction. À la fin, tout à la fin, place du prophétique. Mais c'est tout à la fin. Hein. Anne Griffy a bien dit, le point de départ, c'est être serviteur marqué par la compassion. Sinon, ça sera pire. D'accord ? Place du prophétique, alors, et elle a pris beaucoup de temps pour demander à ce que des gens se lèvent et pour prier pour des gens pour qu'ils puissent, je dirais, réveiller la dimension prophétique dans leur vie. Voilà. Alors, on s'arrête un peu, c'est la dernière partie, sur chaque mot. Et j'ai demandé au Seigneur comment faire, et pour chaque mot, le Seigneur me disait, voilà, j'avais noté ça, pour chacun de ces éléments, mais rapidement, parce que j'ai pas 3 heures devant moi, hein, Et puis on va poursuivre ça à la retraite. Mais montrez bien le lien de ces éléments avec la vision générale, c'est bien lié. L'harmonie de ces éléments avec la parole de Dieu. J'ai cherché à soutenir cela par la parole de Dieu, un petit peu. Et aussi essayer de voir, bon, allez, quelle application pratique? Quelle application? Ces choses-là, maintenant, tout de suite. Voilà, en étant concrète chez concret, quoi, hein, un petit peu. Ça reste pas que des mots. Hein. Alors, parole, pardon et réconciliation. On était avec Annette en 2004, en Normandie, un séminaire fait par qui? C'est Brenda Willis. Et puis, il y avait aussi Jen et Bill, bien sûr, que vous connaissez très bien. Et je me souviens très très bien, quand elle a prié un moment pour nous, Annette, elle a dit, votre Église incarnera le message de la réconciliation. On a des opportunités en tant qu'Église évangélique, dans nos contacts les catholiques, que peu de chrétiens évangéliques ont. Vous avez remarqué ? Peu. Les portes ouvertes au niveau des catholiques, c'est incroyable. Il y a beaucoup d'évangéliques qui nous regardent comme ça. Bon, peut-être certains et que peut-être est-ce qu'ils vont pas trop loin. Mais je pense pas. Je pense qu'il y a une interpellation de la part de beaucoup, certainement. Que de portes ouvertes. Normalement, on réveille l'amour, entre autres. Je crois que le deuxième axe tout à l'heure, être un seul cœur, franchement, ne pourra jamais être vécu, jamais, sans la dimension du pardon et de la réconciliation. Ça veut dire que le pardon et la réconciliation doivent faire partie de notre vie. Le deuxième axe ne sera jamais atteint. Ouais. Alors, quelques textes pour soutenir ça. La parole de Dieu. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Bon, quelque part, c'est vrai, c'est juste avant la scène d'essayer d'être en bon accord ensemble. C'est juste. Bon, maintenant, voilà. Il faut, voilà. Je ne juge pas, je ne suis pas jugé parti hein, du tout. Mais je crois que le pardon, la réclamation, c'est sûr, doit faire partie de nos vies. 2 Corinthiens 5. Dieu nous a donné le service de la réconciliation. J'aime bien ce mot. Il y a des traditions qui disent le ministère, le service. Quelquefois, les ministères. Le service. On veut développer les ministères, on devrait peut-être plus employer le mot service. Hein? D'accord? Ouais. Le mot service. Tiens. Justement, je suis tombé sur une parole de Francis Frangipane sur l'autorité spirituelle, qui est très bien. Et qui dit... Jésus a dit, j'ai l'autorité de donner ma vie. Son autorité venait de ce qu'il avait donné sa vie. Il avait le choix entre des lions d'ange et une délivrance personnelle immédiate, ou la mort à la croix et la délivrance de l'humanité. Il choisit de mourir pour nous. La décision d'offrir volontairement nos vies comme Jésus l'a fait est la voie même sur laquelle la véritable autorité spirituelle se développe. Notre autorité vient de la même source. Prendre notre croix et donner notre vie pour les autres. Voilà la source de la véritable autorité. Ça fait réfléchir. Hein. Donc, en application, qu'est-ce que je verrais en application? Je dirais, soyons tous les uns les autres exigeants avec nous-mêmes dans ce domaine. Dans le domaine de nos relations. D'accord? Soyons exigeants. Car si on peut avoir un impact, si ça fait partie de notre appel, vous doutez bien que l'ennemi va tout faire pour brouiller les relations dans l'Église. Donc soyons conscients de sa stratégie pour nous écarter de notre appel. Soyons conscients pour être exigeants et apprenons à régler vite des problèmes relationnels. Apprenons à régler vite des problèmes relationnels. On est tous pécheurs, vous êtes d'accord? Moi le premier, on fait tous des maladresses. Dans un moment, on est en plus, il y a la fatigue, on fait tous. Donc, on a tous besoin du pardon de notre frère et besoin de demander pardon, c'est clair. Réglons vite. Ne laissons pas des semaines, des mois. Réglons vite. Ça, c'est la première application que je vois. La première application que je vois pour bien vivre, pour bien notre feuille de route, là. D'accord? Ouais? Ouais? Il faut essayer. C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit « autant que cela dépende de nous ». Donc, on sait bien qu'il y a une limite. Mais il faut essayer. Bien entendu. Hein, l'exigence, ce n'est pas de réussir, l'exigence, c'est de faire la démarche. Si tu sais que l'autre a quelque chose contre toi, va trouver ton frère. D'accord? C'est d'essayer. Hein. c'est d'essayer. Moi, je me souviens avoir désamorcé des choses en réagissant vite, très vite. Mais j'ai vu par contre des situations s'envenimer quand j'ai vu vraiment des choses. Voilà, parce que bon, ouais. 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 Ah, c'est certain qu'il faut pas y aller dans un moment. Si on est énervé, que ça bouillonne à l'intérieur, c'est pas le moment. Il faut savoir lever le pied. Quand je dis vite, c'est pas à la seconde et surtout au moment où on est sous la colère. Hein, c'est pas ça que je veux dire. Vite mais sans précipitation. Oui. Ouais. Oui.
Un qui doit lâcher.
Oui.
Non, mais ça,
ah. Oui. Vous tous, dans vos rapports mutuels, dit Paul, revêtez-vous d'humilité. C'est-à-dire que, enfin, moi, je prends cette manière de faire aussi. Dans certains conflit, ou même je ne suis pas le premier responsable, je préfère demander pardon pour des petites choses dont je suis responsable, et qui ont peut-être des petites choses, d'accord ? Et quand je vais trouver mon frère, le fait de venir dans cette démarche peut l'aider lui aussi, de son côté, à dire bon. Mais c'est certain, si on vient entêter, bon. Oui. Ouais. Oui. Exact. 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 Voilà. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. C'est juste. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. En fait, oui, c'est ça. Bon, c'est voir simplement, c'est voir les petites zones d'ombre qui ont pu être chez nous. Hein, d'accord. Voilà. On est tous des pêcheurs. Hein. Voilà, sans pour autant tomber dans le piège de l'accusateur du diable. Bon, voilà. Apprenons à régler vite des problèmes de relation pour le pardon. Soyons aussi, d'une manière beaucoup plus large, à l'écoute du Saint-Esprit pour des démarches, quelquefois, de pardon qui soient signes de ce ministère de réconciliation. Un peu comme cette démarche dont je vous ai parlé une fois où j'étais voir Carlos de l'Église catholique, et c'était le Saint-Esprit qui me le demandait, pour demander pardon pour mon orgueil spirituel. À travers cette simple démarche, toute simple, où j'ai obéi au Saint-Esprit, je n'obéis pas toujours, mais là j'ai obéi, et je me rends compte que le Seigneur a ouvert des portes magnifiques depuis là, avec l'Église catholique. Donc nos démarches ouvrent des portes. D'accord ? Alors, voilà. Voilà quelques éléments de la feuille de route. Je crois que Dieu nous attend en tournant là, hein, cette année. Et nous attend qu'on soit exigeants avec nous-mêmes. D'accord ? Je crois qu'il nous faut un profond respect les uns des autres. Nous réagissons quelquefois au quart de tour à l'expression différente de l'autre. En plus, s'il est... Alors, Il faut vraiment là se maîtriser pour l'autre pense peut-être totalement différent de moi, un autre perçu peut-être à cause peut-être d'un contexte, des éléments, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'on va lui donner raison. Ça ne veut pas dire qu'on va lui donner raison, parce que peut-être justement en plus il est sous la colère, certainement. Mais de rester calme, de continuer à apprécier la personne, respecter la personne va nous aider à continuer le chemin ensemble. Mais si je me dresse contre tout de suite l'expression différente, contre, je suis en opposition et je ne peux pas construire. D'accord ? C'est quelque chose que j'ai dit récemment. Il faut vraiment qu'on arrive à construire dans ce domaine. Ok. Alors, deuxième point, serviteur marqué par la compassion. Voilà, ça c'est notre appel Église de Wavrin. D'ailleurs, c'est pas loin de l'appel pour Lille. Parce que Anne Griffy a partagé une parole pour Lille, et c'est pratiquement pareil, comme si vraiment nous, Wavrins, on est vraiment collés à l'appel de Lille. Depuis des années, Anne Griffy a dit « Je vois Lille pour le service. Je vois l'église de Lille pour le service, la ville de Lille pour le service. » Hein, je rappelle dans le texte de Corinthiens 5 que c'est traduit « ministère par service ». Ouais. Voilà. La construction selon le cœur de Dieu, hein, c'est le caractère de Jésus, doux et humble. Et je me souviens, dans cette parole, il nous avait été dit aussi « avancez simplement ». La simplicité et l'amour amènent la liberté et mettent à l'aise. Il nous libère de la religiosité. Souvent, des gens extérieurs nous ont dit, à propos de notre Église, qu'ils ont trouvé cette simplicité, cet amour chez nous. Souvent, je dis ça pour encourager, hein. Mais souvent, ça a été dit. Et c'est ça qui nous permettra de vivre le troisième axe, d'être le cœur de Dieu où nous sommes. Rappelez-vous acte 2, verset 18, sur qui il est promis que le Saint-Esprit sera répandu. Au début, il dit, bon, les vieillards, les jeunes gens, puis après, dans acte, c'est Luc qui résume cette promesse en disant que le Saint-Esprit allait se répandre sur mes serviteurs, servantes. Ça parle. C'est Paul qui dit, qu'est-ce donc Apollos et Silas? Des serviteurs. Galates 5, 13, par l'amour, rendez-vous serviteurs les uns les autres. 1 Corinthiens 13, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors, comment je vois l'application de ça? Comment je vois l'application? Je suis moins dans les projets ce matin. Je suis moins dans les projets, je suis plutôt dans une attitude. Quelle est l'attitude que je dois mettre en route pour vivre ça, pour que je sois vraiment aligné avec ma feuille de route, hein, d'être serviteur. De rechercher le bien de l'autre avant ma propre reconnaissance. Qu'est-ce qui me motive dans une tâche que j'accepte de remplir pour l'Église? Est-ce que c'est vraiment le bien de l'autre ou est-ce que c'est ma reconnaissance? Ça fait réfléchir, hein? Sachant que si nous tous, on cherche le bien de l'autre, nous allons trouver notre reconnaissance. On va la trouver. Parce qu'on va recevoir la reconnaissance de l'autre. Parce que si je recherche ton bien, Christine, je vais t'encourager. Si je recherche ton bien, Josette, Jacques, je vais vous encourager. On doit être tous des Barnabas et inversement. D'accord? Donc, ma difficulté de reconnaissance, elle va être estompée par cette attitude de bienveillance, j'allais dire, de bienveillance que je manifeste. D'accord? Voilà, soyons moins centrés sur nous-mêmes. Recherchons l'approbation de Dieu plus que celle des hommes. Gardons et cultivons cette simplicité, cette liberté que nous avons. Surtout, faisons attention. Faisons attention. C'est pour ça qu'à un moment, j'avais de la retenue par rapport à une élaboration des ministères. Je me dis, si on élabore et qu'on se met en place des ministères, mais qu'on n'a pas un fondement de relation bonne et solide, on va se planter. Oui. On va se planter. Ouais. Donc il faut vraiment... Anne Griffy a dit, c'est le point de départ. Sinon, ce sera pire. D'accord? Alors, ce que j'aimerais souligner, et ça c'est dans l'application aussi, de comprendre, et ça, toutes ces années je l'ai compris, et je l'ai dit, je l'ai prêché souvent, Je ne crois pas que la compréhension peut venir comme ça. Non. Et je crois vraiment qu'elle se développe, elle ne peut se développer sans que le Seigneur ne creuse nos cœurs. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, creuser nos cœurs? Ben, creuser, penser à un rocher qui est dur, ben, c'est de le tailler, ou je sais pas, enfin, c'est d'enlever la dureté. Normalement, quelquefois c'est le résultat inverse. Hein. Quelqu'un qui est fermé à l'œuvre de Dieu peut devenir pire dans l'épreuve. Mais normalement, si nos cœurs sont souples, dans l'épreuve, nous devenons plus humains, moins durs avec les autres, moins durs dans des situations. Ça ne veut pas dire moins de conviction. Ça ne veut pas dire qu'on s'éloigne de la sainteté non plus. Ça ne veut pas dire ça. Hein. C'est moins dur dans le jugement. On est moins porté à juger. Et je crois que la compassion, c'est le fruit de l'œuvre de Dieu qui creuse nos cœurs. Et donc voyons toute épreuve, toute difficulté, que ce soit au travail, que ce soit comme une occasion où Dieu veut creuser nos cœurs pour faire ressortir ce fruit de la compassion, qui est le fruit de l'amour agapé, dont j'ai parlé souvent. Hein. Et là, moi, ça me réjouit d'avoir entendu ça par Anne Griffith. Je dis, partout on est passé en tant qu'Église. C'était pas facile, hein, avec ces gens qui si on avait gardé tous ceux qui étaient venus ici, on serait 200 ici. Hein. Bon, alors je crois que je sais au moins pour une fois que moi, j'ai dû faire une maladresse, mais pas dans tous les cas non plus, et c'est dur. Toutes les difficultés par lesquelles on a passé, après qu'on a acheté la salle, tout ça, les difficultés qu'on a quelquefois au travail, on vit des situations difficiles. Quand on perd son bureau, quand on subit des brimades, Dieu creuse nos cœurs pour faire ressortir le fruit de la compassion. Cet amour qui aime en tout temps. Cette confiance en Dieu. Vous êtes d'accord? Alors, c'est une application de cet élément de la feuille de route pour moi. Comprenons que rien n'est dû au hasard dans ce qui arrive et que, voilà, hein, Dieu veut former nos cœurs. Hein. Vous vous souvenez de ce pasteur en prison pour une faute qu'il a réellement commise, mais pour laquelle il avait demandé pardon à la personne qui l'avait blessé. Malgré tout, il s'est retrouvé en prison. Et il a crié à Dieu, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là, etc. Et puis il a entendu une fois une voix presque audible, il a dit, tu n'es pas en prison, tu es en formation. Bon. Voilà. La guérison fait partie de notre feuille de route. Waouh. La guérison, ben oui, c'était dans la parole aussi. Hein, vous allez accueillir des cœurs blessés. Enfin, la guérison semble faire partie de notre feuille de route, même physique, même si ce n'est pas limité au physique aussi. Et je sais que le domaine de la guérison est dans le cœur de plusieurs, dans l'Église. Alors parce que ça fait partie de l'appel, ça fait partie des cibles de l'adversaire aussi. Donc il ne faut pas s'étonner de la cible. Hein. Il y a cette aspiration et cette prise de conscience, je crois que c'est un temps de guérison. Alors, ce qu'on a vécu récemment, qu'on a partagé il y a 15 jours avec Annette, guérison, enfin des exaucements de prière tout simples après l'onction d'huile. Hein, Baptiste qui est un peu renfrogné, et puis onction d'huile, tu l'as fait par la foi, boum, gay, enjoué, hein, depuis le retour des vacances. Cet enfant qui avait un hématome ici sur le crâne de Délène et Christophe. Moi, je me suis fait une onction d'huile alors que j'allais pas bien au niveau travail. Physiquement, vertige, psychiquement, j'allais pas bien, fragile. Boum, onction d'huile. Et puis, j'ai vu un changement immédiat. J'ai entendu aussi hein, de la bouche de plusieurs dans l'église. Joël, t'as souvent cité des témoignages. Je pense que Philippe a cité, Lovedé a cité aussi. Voilà, je crois que oui, ça fait partie de notre appel. Comment on peut soutenir ça dans la parole? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains malades, les malades seront guéris. Jacques 5, 16. Ah. Confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et le don de guérir est dans la liste des dons, de 1 Corinthiens 12, 28. Alors, quelles applications voir? Comment appliquer ça? Ben, j'allais dire tout simplement, saisissons davantage les occasions de prier pour les malades. Avec onction d'huile ou sans onction d'huile. En toute simplicité. Ceux qui ont exercé ce ministère, ils ont prié pour 100 malades sans voir de réponse. Hein. C'est John Wimber qui a dit ça. John Wimber dit, j'ai prié peut-être pour mes 100 premiers malades et personne n'a été guéri, les 100 premiers. Mais j'ai persévéré. Avec simplicité, sans nous prendre la tête. En se disant, j'obéis, le Seigneur a dit, de mettre de l'huile, de mettre ma main. C'est lui qui guérit, c'est pas moi. Je m'appuie sur lui. Donc de saisir davantage les occasions de prier, hein, de rester simple et de nous rappeler, hein, d'accord, de nous rappeler que le climat de paix et de pardon favorise la guérison. Aussi, Jacques. Alors encore deux points. Servir à la table collective de la région. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi, ça confirmait ce que le Seigneur a imprimé dans mon cœur ces derniers temps. Rappelez-vous comment le Seigneur a béni simplement, quand on l'a servi au tout début dans une vision large, ceux qui étaient là, quand on a fait ces célébrations de louanges dans les villages, avec, à l'époque, tiens, justement Didier Godin qui revient parmi nous, avec les Clifford, avec Marc, avec les têtes. C'était vraiment béni. Célébration interconfessionnelle. Rappelez-vous la soirée Carlos Payan. Rappelez-vous les veillées de prière avec Carvin. Le séminaire sur la prophétie avec Anita Giovannoni qu'on a organisé nous-mêmes. Sans oublier les veillées œcuméniques, les semi-nuits de prière. Le vent de l'esprit a soufflé. Ça, il y avait un sentiment hein, de respiration, d'un souffle nouveau. Et au contraire, je ne sais pas si vous avez noté ça, mais un sentiment de stérilité quand on était trop cantonné dans nos activités locales, trop replié sur nos activités locales. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier ça, hein, attention. Mais quand on ne voyait plus que ça, il y a quelque chose qui... Donc ça veut dire qu'on n'a pas à se désintéresser de certaines choses ici qui se passent là, régionalement. Et pour lesquelles on a une part certainement importante dans l'organisation, dans la préparation, dans le service. Hein, Anne l'a dit, ça ne doit pas faire oublier notre propre identité, nos couleurs. Hein. Wavrin doit demeurer un point de ralliement, mais il faut garder la vision du corps. C'est-à-dire que l'unité que Dieu désire rendre visible, c'est une unité qui dépasse, d'accord, l'église locale. Voilà. Alors, je vais un peu plus vite parce que là... Ouais. Application, donc ne pas bouder les initiatives de l'Esprit Saint dans la région, comme si on n'était pas concerné. Voilà, je crois que quelquefois nous l'avons boudé. Et pour moi, ça appauvrit l'Église. Quelquefois, on n'était que un, deux ou trois concernés. Et là, je crois que c'était une erreur. C'est pour ça que ce qui suit les 10 jours de prière, notamment les veillées de prière au Château Blanc, là, qui vont se poursuivre chaque vendredi, j'ai vraiment la conviction qu'on doit y aller au moins une fois, un vendredi par mois, minimum, un vendredi. D'accord? Ça va nous élever, ça va nous faire du bien, et ça va faire du bien à notre unité aussi. Et je termine. L'appel à être prophétique. Ça veut dire prophétique, hein, être inspiré de Dieu, hein, par son esprit. Alors les uns vont peut-être être conduits simplement dans des paroles prophétiques, dans des images, dans des paroles de connaissance, et d'autres plus rares, peut-être dans un ministère de prophète, hein, d'accord? Et je crois que c'est l'attitude d'écoute et d'obéissance qui va nous permettre d'entrer plus dans cette dimension. Alors, il y a une insistance en ce moment sur Marie qui est au pied de Jésus, à l'inverse de Marthe qui s'agite. N'insistant d'être une église à l'écoute. Alors comment on peut soutenir ça de la parole? Paul il dit, je désire que tous prophétisent, hein, mais que ce soit pour l'édification. En application, je dirais, c'est le temps d'apprendre ensemble à se laisser conduire par l'esprit. Besoin de, encore de se voir quand même un minimum ensemble et d'entendre ensemble l'Esprit Saint. D'entendre ensemble quand on est réunis. D'accord? Alors voilà, j'arrive à la conclusion. J'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous êtes convaincu que le Seigneur nous adresse une feuille de route collective? Bien sûr, il y a des indications personnelles, mais est-ce qu'on fait bien la connexion entre notre feuille de route personnelle et la feuille de route collective? Dieu nous adresse des appels personnels, mais si ce n'est pas intégré et connecté au corps du Christ, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Alors j'ai envie qu'on on peut le faire, se remettre dans la prière maintenant, vous êtes d'accord? Demander à Dieu de dresser sa voix devant nous, de voir, de comprendre, d'emprunter les chemins qu'il a frayés pour nous en tant qu'Église, de ne pas prendre les chemins non frayés. D'accord? Je termine avec ce verset dans Chronique. De Chronique 15, je termine avec ça. Verset 2. De Chronique 15, verset 2. Si vous le recherchez, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le recherchez, vous le trouverez. Verset 7. Soyez fermes. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Car il y a un salaire pour vos actions. Il y a un salaire. Est-ce qu'on peut vraiment demander au Seigneur la grâce de mieux comprendre cette feuille de route dont modestement j'ai essayé de donner quelques éléments? Est-ce que on peut demander la grâce? Seigneur, fais-moi la grâce. Fais-moi la grâce. Fais-moi la grâce, Seigneur. Fais-nous la grâce de comprendre notre feuille de route. Et Seigneur, voilà, peut-être cette négligence pour l'eau qui s'est évacuée est un avertissement pour nous tous. Hein? Dans le naturel, souvent le Seigneur cherche à interpeller pour le spirituel. Ben oui, un avertissement. Et on le paye cher, on va le payer cher, bon, même si c'est pas la catastrophe, hein, mais on peut le payer cher, la négligence aux instructions, aux éléments de la feuille de route. Alors Seigneur, nous voulons faire attention. Toutes les fois tu cherches à nous interpeller, nous parler, Seigneur. Donne-nous dans ces domaines que nous venons de développer là, le pardon, la réconciliation, l'esprit serviteur et la compassion. Le service pour la table collective de la région, la guérison, le prophétique. Seigneur, que tu nous aides à appliquer, à rentrer vraiment dedans, à tout mettre en œuvre pour avancer et répondre à notre appel. Amen.